Vendredi 19 avril, mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Pour vous, menu aujourd'hui, votre guide pour la Chine 2024, c'est-à-dire au cours des prochaines minutes. Je vais vous fournir toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez profiter pleinement de votre week-end de course. Il y avait lieu justement cette nuit, ça vient tout juste de se terminer, la séance, la seule et unique séance d'essai libre pour le week-end, car on est en formule sprint à Shanghai. On a aussi eu la sprint shootout, la formule de qualification qui va servir à la course de 100 km qui aura lieu demain matin aux petites heures de la nuit pour nous au Québec. Mais pour débuter l'émission, voici l'actualité dans le monde de la Formule 1. L'actualité est une présentation de la FSR Team, la Friend Sim Racing, qui vous invite à rejoindre leur groupe Facebook afin de ne rien manquer de l'action de leur championnat qui se dispute présentement les soirs de semaine sur la chaîne YouTube du GTCQ.tv. Tout d'abord, dans l'actualité bien nouvelle qui est tombée un peu plus tôt cette semaine, c'est qu'on a déjà procédé au dévoilement du calendrier 2025. C'est les destinations restent pareilles. C'est plutôt le moment dans la saison où on va les visiter qui a été chambardé un petit peu. Ce qu'on fait, c'est qu'on lancera pas la saison comme depuis déjà un certain temps en Formule 1. Le premier Grand Prix de la saison était à Bahreïn, mais là, on va retourner à nos vieilles habitudes et on va lever le voile sur la saison 2025 en Australie. Pas nécessairement le meilleur endroit, non seulement pour l'horaire, c'est sûr que ça se passe en pleine nuit pour nous, mais aussi pour le spectacle. Je trouvais que Bahreïn, c'était le bon endroit pour lancer la saison. C'est une place où on peut avoir beaucoup de dépassements. Il y a aussi, on fait les tests là-bas, fait que normalement, on arrive dans la saison puis on est prêt pour lancer les festivités, tout ça. Mais là, ça sera pas le cas. On va plutôt lancer ça du côté de l'Australie. Pourquoi on fait ça? Ben, c'est qu'on veut éviter le ramadan. Vous savez, là, on a changé un peu les dates. Cette saison, on a eu des grands prix le samedi. Ben là, on veut les éviter complètement. Donc, on va y aller plus tard. On va commencer plus tôt, comme je vous disais, oui, par l'Australie, mais ensuite, ça va suivre par la Chine, le Japon. Là, ensuite, on va y aller à Bahreïn, Arabie Saoudite, aux États-Unis, premier grand prix en Amérique. Mais ce qui nous importe le plus, la date qu'on entoure, au calendrier, eh bien, c'est celle du Grand Prix du Canada. Celle-là, eh bien, c'est le 15 juin. Donc, le week-end de course en 2025 va se dérouler du 13 au 15 juin. Si vous avez déjà un calendrier 2025 sous la main, ben, vous êtes vraiment à votre affaire. Ben, vous pouvez déjà entourer ces dates-là pour être sûr de ne pas rien manquer. Mais vous pouvez être sûr là, que d'ici ce temps-là, on va en reparler et on va vous rafraîchir la mémoire quand se déroulera le Grand Prix de la prochaine saison. On n'a déjà pas fait celui de 2024. Donc, il reste encore bien du temps, bien des courses et bien de la gasoline à brûler d'ici ce temps-là. Deuxième nouvelle encore, on se projette encore dans le futur, eh bien c'est Aston Martin qui a annoncé qu'ils allaient rester en Formule 1, donc on s'engage à rester en Formule 1 jusqu'à la saison 2030. C'est pas vraiment une surprise, parce qu'avec tous les investissements qu'on a fait là, du côté de Lawrence Stroll, Aston Martin a même perdu de l'argent là, depuis avec tous ces investissements-là, donc si on veut vraiment récupérer tout ça, il faut rester là un certain temps, donc ça aurait été vraiment, vraiment une grande surprise de dire on se retire, on ne veut plus avoir le nom là. Est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas quand même vendre des actions, céder des parts à des entreprises qui veulent se joindre, qui veulent faire un partenariat avec nous ou qui voudraient agrandir le partenariat avec Aston Martin? On pense à Aramco, notamment, qui avait déjà eu des rumeurs qui entouraient ça, qu'on pouvait être intéressé à vouloir prendre plus de parts dans l'entreprise britannique. Bien, ça peut toujours arriver, mais le nom Aston Martin en tant que tel va rester là. Donc, on va rester, si jamais on n'est plus entièrement propriétaire ou propriétaire majoritaire, le nom va rester du moins jusqu'en 2030. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour le sport. C'est une bonne nouvelle pour Lawrence Stroll parce que c'est quand même c'est une entreprise qu'il veut aussi mettre de l'avant, mettre dans la vitrine dans ce sport-là d'élite. Donc, démontrer qu'il peut se mesurer au plus grand manufacturier qui fabrique des voitures sport. C'est que ses plus gros compétiteurs, justement, comme Ferrari, Mercedes, McLaren. C'est pas mal ça pour l'instant. Donc, tout ça, il continue de se mesurer à eux, d'être vu. Donc, c'est toutes des bonnes nouvelles pour ça. Puis, comme je vous dis, d'avoir des grands manufacturiers, c'est ce qu'on veut. Andretti essaye d'emmener General Motors pour se joindre à ce grand cirque-là. On a Ford qui va joindre la bagarre en 2026. Donc, c'est toujours des bonnes nouvelles. Si on peut garder aussi, même si on a démenti les rumeurs, mais garder Alpine-Renault dans le championnat. Donc, tout le fait d'avoir ça, Honda reste là à cause de l'entente qu'on a faite avec Aston Martin. Audi s'en vient en 2026. Donc, c'est tout un grand party là, qui se dessine. Là. Du moins, jusqu'à 2030, là, si Aston Martin reste là, les autres, on sait que Audi, on se joint, on n'a pas tous fait ces investissements-là pour rester là un an. On devrait être là à un certain moment. Donc, tout ça, là, c'est tout. Comme je vous dis, c'est toutes des bonnes nouvelles, mais en même temps, c'était pas de surprise. C'est, même, il aurait pu pas le confirmer, puis on aurait pris pour acquis qu'ils sont encore là pour un certain temps, certainement. À part de ça, eh bien, on ne peut pas passer à côté, faire un épisode sans parler du marché des pilotes autonomes. On en a parlé en début de saison. Vous avez dit que ça retiendrait l'attention. Ce serait le sujet probablement principal de la saison. C'est quelque chose qui est très particulier d'avoir autant de pilotes qui se ramassent sans contrat à la fin de la présente saison. Et bien, le nom qui est sur toutes les lèvres, quand c'est pas des rumeurs lancées par Toto Wolff sur Max Verstappen ou par des médias allemands, eh bien, c'est Carlos Sainz. Carlos Sainz, c'est la vedette présentement. Depuis que Fernando Alonso a signé, prolongé son entente avec les Verts, bien là, présentement, Carlos Sainz devient le candidat principal pour bien les écuries. C'est celui qu'on essaie d'aller chercher le plus. Même si Mercedes se montre très peu intéressé, on fait un peu des bluffs du côté de Toto Wolff. On mentionne qu'on pourrait aller vers le jeune Antonelli, qu'on n'a pas nécessairement besoin de Carlos Sainz. Après ça, t'as Audi. Audi, lui, eux autres, ils font des beaux yeux à Carlos Sainz. C'est un partenariat qui date de longtemps avec Carlos Sainz Senior, son père. On voudrait avoir le fils, c'est un nom qui serait vendeur. Les gens qui suivent les rallyes connaissent Carlos Sainz Senior depuis plusieurs années, donc c'est un nom qui est déjà accrocheur pour Audi. Ce serait un bel élément marketing. De plus, il y a les gens qui étaient en place chez McLaren, qui ont bien connu Carlos pendant ces années qu'il était là. Donc, il voudrait retravailler avec lui. En plus, il a un bon début de saison. Donc, on lui aura offert un très, très gros contrat. Ça, c'est selon les dires de Helmut Marko. Comme j'ai déjà mentionné souvent à l'épisode, le docteur Marko, qui est conseiller chez Red Bull, bien lui, là, il en dit des affaires. Puis, normalement, des fois, il en dit trop, mais c'est très rare qu'il n'y ait pas de mensonge. Là. Il est très transparent. Donc, souvent, quand on veut savoir ce qui se passe, les journalistes de métier sont au courant. On s'en va mettre un micro sous la bouche de Dr. Marko, puis d'habitude, on va avoir pas mal d'heures juste sur ce qui arrive dans les paddocks, contrairement à d'autres personnes qu'on voudrait interviewer. Des fois, c'est un peu une perte de temps. Mais Dr. Marko, normalement, il nous donne l'heure juste, puis lui a mentionné que Carlos Sainz a une offre très généreuse de la part du géant allemand Audi qui se joint en 2026. On veut déjà le mettre sous contrat pour la saison 2025 puisqu'on n'en a plus de pilote. Du côté de Joe, son contrat se termine, du côté de Bottas aussi. Donc, on veut déjà faire des acquisitions clés pour mettre en place, commencer à dresser des fondations pour notre arrivée en F1. Et Carlos Sainz, c'est le pilote qu'on a mis depuis le début. Là, on l'a mis sur notre tableau de chasse. On veut aller le chercher. Donc, on lui aurait fait une offre très généreuse, une offre que Dr. Marko mentionne que Red Bull n'est pas prêt à égaler, non plus il n'est pas prêt à aller dans une surenchère, donc on ne veut pas nécessairement embarquer là-dedans. Là. Même, il en parlait plus tôt cette semaine de dire que c'est très peu commun que si tôt, dans le mois d'avril, on est déjà en train de parler de toutes ces négociations de pilotes-là. Puis lui, il a dit, on va patienter, on ne veut pas embarquer dans cette guerre-là. En même temps, qu'est-ce que ça peut cacher ça? On est dans les rumeurs, on est dans les suppositions, mais je peux comprendre un peu la situation. Vous mettez dans les souliers de Red Bull, là, est-ce qu'on est pressé à annoncer à Sergio Perez qu'on ne veut pas renouveler son contrat? Si c'est le cas, là, pourquoi tout de suite mettre le trouble dans l'équipe? On ne veut pas se retrouver dans cette situation-là. Si on peut se permettre d'étirer ça, de ne pas signer Carlos Sainz tout de suite, on sait peut-être qu'il ne veut pas aller nécessairement chez Audi, qu'il préférait continuer avec une écurie très compétitive plutôt que d'aller en développer une ou en construire une qui peut prendre un certain temps avant de retrouver une voiture avec laquelle il peut se faire justice et compétitionner. Il est dans la fleur de l'âge. Est-ce qu'il veut sacrifier ces saisons-là? Je le pense pas. Je suis pas son agent, mais si je l'étais, c'est pas ce que je lui conseillerais. Je lui dirais, on va attendre le plus possible. Si on est capable d'avoir une opportunité de trouver un volant chez Red Bull, on va le prendre. Même chose pour Mercedes. Je pense qu'il risque d'être beaucoup plus compétitif dans les prochaines saisons. Il peut toujours finir par aller chez Audi plus tard quand le développement aura été fait. Mais du côté de Red Bull, pour revenir à eux, si on veut vraiment dire qu'on veut pas poursuivre avec Sergio Perez, je dis pas que c'est le cas parce que Sergio Perez a un bon début de saison. Pour l'instant, il livre la marchandise. Mais justement, on peut continuer à évaluer Perez. Continuer à voir ce que Carlos Sainz fait, vraiment voir c'est quoi nos options sans semer le trouble dans l'équipe et d'aller annoncer tout de suite à Perez avoir une situation un peu là, comme chez Mercedes avec Lewis Hamilton, où on sait déjà qu'il s'en va. Même situation chez Ferrari où eux autres, ils sont au courant que Carlos Sainz ne sera pas là la saison prochaine. Donc, pourquoi Red Bull voudrait s'embarquer là-dedans si on n'est pas pressé? Si on sent pas que Carlos Sainz va nous glisser entre les mains, peut-être qu'on peut juste attendre et essayer d'étirer ça le plus possible pour rendre... pour éviter une situation qui est inconfortable. Même chose pour, si on veut signer Perez, je pense que ça serait déjà fait ou que ça va être fait dans les prochaines semaines. On va pas étirer ça pour rien puis continuer de mettre une situation où un peu d'instabilité, où il sait pas s'il va partir. Donc, pour l'instant, comme je vous dis, je pense qu'il y a encore, quand on entend Dr. Marco dire on va être patient, je pense que c'est vraiment le jeu qu'ils ont décidé de faire, de dire on va pas se précipiter pour une décision parce que ça pourrait un peu bouleverser ce qu'on est en train de construire. Ça va bien, on a des bons résultats. On veut pas venir gâcher cette chimie-là. Là. Même si je pense qu'on a passé assez de vagues au cours de la saison. Là. La marée, là, puis l'océan nous a brassé pas mal. Là. Fait qu'à ce moment-là, on essaie de dire, pendant que la barque est stable un peu, on va essayer de pas trop agiter le bateau puis de continuer dans la même direction là, sans faire des grosses annonces puis venir un peu changer cette stabilité-là qu'on cherche à avoir, là, qu'on cherche à regagner du moins depuis le début de la saison. Autre chose, parlant de brasser la barque, mais du côté de Williams, on sait finalement quand on va avoir le châssis. Nous, vous savez, là, on n'a pas de châssis de remplacement. Ça a causé des problèmes alors qu'on a eu des collisions, plusieurs collisions même, parce que c'est produit la même chose. Là. Ça a passé un peu sous silence. Mais Alex Albon, sa collision avec Daniel Ricciardo lors du dernier Grand Prix, on est obligé de faire un copier-coller de ce qu'on avait fait, là, c'est-à-dire de prendre le châssis défectueux, de le retourner encore une fois en Angleterre et de le réparer pour qu'il soit fin prêt pour le Grand Prix de Chine. Donc, on l'a renvoyé du Japon en Angleterre, comme on avait fait en Australie. Même chose, quand il avait eu son accident, là, on l'avait renvoyé, on lui avait donné celui de Logan Sargeant, ben là, on est obligé de faire encore une fois ça. Et puis, on a demandé à Alex Albon, est-ce que tu as la consigne d'équipe de dire, faut faire attention? Est-ce que vous êtes appelé à avoir une prudence pour pas endommager la voiture? Et lui, il a répliqué, la journée qu'on va être obligé de faire attention et de penser à ne pas endommager notre voiture, vraiment, là, penser à des dommages possibles, de pas aller à la limite, on est aussi bien de rester à la maison. C'est ce qu'il lui a mentionné. Je pense que je suis d'accord avec lui, il peut pas commencer à penser à ça. Quand on est dans un sport où tu dois toujours aller chercher la limite. Puis aussitôt que tu dis, ah, je prendrai pas cette limite-là parce que je veux pas avoir un accident, bien c'est vrai que tu deviens automatiquement, tu vas te sortir de l'équation, tu ne seras plus compétitif. Fait que je suis bien d'accord avec ce qu'il a mentionné. Puis en passant, là, si vous l'observez durant le week-end, il a un magnifique casque avec un panda dessus, avec les yeux d'un panda qui est, je pense que c'est l'animal, ouais, c'est emblématique pour la Chine, là, c'est vraiment l'emblème de la Chine, le panda, donc c'est pour ça qu'il a fait ça, donc il va être assez facile à différencier. Si jamais vous voyez une tête de panda dans une Formule 1, eh bien c'est Alex Albon. Eh bien, c'est ce qui conclut l'actualité. Maintenant, passons à la séance de C'est libre et aux qualifications qui avaient lieu cette nuit en Chine. ...1835 jours se sont écoulés depuis la dernière présence de la Formule 1 en Chine. Et on est de retour ce week-end, on est de retour en grand avec notre Formule Sprint. Formule qui a été encore une fois revampée cette saison, je vous démêle un peu ça. Une seule séance d'essai libre, donc le vendredi matin. Ensuite, en après-midi, on faisait les qualifications Sprint Shootout qui vient déterminer la grille pour la course Sprint. La course Sprint qui aura lieu ce soir, si vous écoutez le podcast vendredi, eh bien c'est bien vendredi soir à 23h heure du Québec. Cette course-là, la grille est déjà déterminée. On va y en venir dans quelques minutes, je vais tout vous dire ça. Puis ensuite, après avoir fait cette course de 100 km-là, bien, on va passer aux qualifications. Ça va être un peu spécial, là. On va commencer la journée en course simple, après ça, on va retourner aux qualifications. Donc, si jamais il arrive quoi que ce soit, là, ça va être à surveiller. S'il y avait un accrochage dans la course sprint, il y a quelqu'un qui perd une roue, un aileron, ou quelqu'un qui endommage un châssis. Williams aimerait pas ça que je mentionne ça. Je pense chez Williams, d'après moi, on n'a même pas le droit de dire le mot dommage puis châssis dans la même phrase. Mais en tout cas, admettons, l'advenant qui arriverait ça, là, on va toucher du bois pour eux autres. Vous l'avez entendu, ça c'est du vrai bois. Eh bien, admettons qu'il arriverait quelque chose, bien, ça donnerait seulement 4 heures aux écuries pour refixer la voiture et être fin prêt à faire la qualification la plus importante du week-end, parce que c'est celle qui va déterminer la grille pour le Grand Prix de dimanche. Donc là, vous avez compris, 4 heures, est-ce que ça donne assez de temps pour l'écurie Williams de prendre un châssis endommagé, de le retourner en Angleterre, de le réparer, puis de le ramener en Chine? Eh bien non, 4 heures, ce n'est pas suffisant pour réparer un châssis. Donc, s'il arrive quoi que ce soit à l'écurie Williams, ils sont pas mal cuits. C'est bien ça qu'il va falloir dire. Donc, est-ce qu'on va prendre des risques? Je sais que Albon a mentionné, là, ah, ben là, si on peut pas prendre de risques, on est tout de même de rester chez nous. Mais c'est pas juste le cas d'Albon, hein. C'est le cas pour plein d'autres écuries. Je vous mets en perspective. Max Verstappen, lui, il veut gagner un championnat. Je sais que souvent, c'est assez dur de le ralentir, puis lui, c'est toujours, il y a une façon de conduire, puis c'est au fond. Mais jusqu'à où tu veux prendre des risques si jamais ça peut venir peut-être perturber ta course pour le lendemain, ton Grand Prix, ce qui va donner plus de points. Même chose pour les Ferrari. Les Ferrari, on se bat pour le... On a encore l'espoir là, de gagner le championnat des constructeurs, puis j'espère. McLaren aussi, on a des choses. Par contre, les écuries qui sont plus loin, ceux qui veulent aller marquer des points et rentrer dans les 8 premiers, qui c'est peut-être mon opportunité, eux, après moi, ils vont y aller, ils vont prendre les chances. Sauf que, faut toujours garder en tête 4 heures seulement pour réparer la voiture entre les séances, entre la course sprint de 100 km et les vraies qualifications en après-midi. Donc, cette nouvelle formule-là, ça amène un peu, ça vient un peu changer la recette, voir qu'est-ce que ça va apporter. Est-ce que c'est certain s'il arrive quelque chose et des équipes vont dire ça, c'est pas la bonne formule. Mais en même temps, si ça donne un bon spectacle, ben, les partisans vont dire, hey, on aimerait ça garder ça comme ça. L'autre chose aussi qui ne fait pas l'unanimité, c'est le fait qu'on n'a pas été pendant 5 ans sur ce circuit-là, puis on ramène la course sprint. Donc, pourquoi ramener la course sprint vient tant fâcher les pilotes ou vient un peu, emmener des opinions là, un peu qui vient contrarier ce que la Formule 1 essaie de faire, c'est qu'on a seulement une séance de célib pour trouver la bonne recette et être prêt pour le week-end. Sauf qu'on a changé le règlement. On n'est plus en parc fermé. Qu'est-ce que c'est un parc fermé? C'est aussitôt qu'on terminait les qualifications par le passé, donc les qualifications qui avaient lieu le vendredi, eh bien, on n'avait plus le droit de retoucher la voiture. La voiture était comme ça pour tout le week-end. Maintenant, on leur permet, donc après les qualifications, de retoucher la voiture pour la course sprint, puis ensuite, après l'autre séance de qualification, ben là, on va dire, là, c'est parc fermé. On leur donne un temps limite pour jouer un peu sur ces réglages-là au cours de la fin de semaine, jusqu'à temps qu'on arrive à la qualification qui va déterminer le Grand Prix, donc celle qui aura lieu samedi après-midi ou samedi aux petites heures du matin pour nous. Donc, tout ça, là, ça a été changé un petit peu. Les pilotes étaient pas contents au début, mais là, quand on a comme appris ça, on a comme changé un peu notre fusil d'épaule. On dit, ouais, ça va venir un peu, mettre un peu de piment dans le week-end. Ça va venir causer des surprises. Surtout les écuries qui sont en fond de peloton, les autres sont contents de ça, de dire, c'est un peu d'imprévu, un peu d'inconnu. Nous, ça nous donne peut-être une chance de se faufiler et d'aller marquer des points. Mais vous savez, en Formule 1, l'inconnu, là, c'est le pire ennemi, là. On a tout pour essayer d'éviter ça. On investit des centaines de millions de dollars pour être capable de tout prédire, tout savoir. Alors, on a des simulateurs, on a des souffleries, on a des radars météo, on est tout équipé là, pour être sûr que l'inconnu, ça ne fasse pas partie d'un week-end. Donc, c'est sûr que quand la Formule 1 vient changer la cédule, puis qu'on commence à dire, on vous allez avoir seulement une séance de célib, petite nouvelle en passant, ça fait 5 ans que vous n'êtes pas venu là, fait que vous n'avez aucune idée qu'est-ce que le circuit a l'air, vous n'avez pas roulé avec les nouvelles voitures, avec l'effet de sol en Chine, non plus les nouvelles gommes Pirelli, bien, vous les avez jamais essayées sur ce circuit-là. Donc, ça aussi, ça va venir faire partie de l'équation. Puis en plus, pour ajouter tout ça, bien, si vous aviez des vieilles données quelque part là, comment le composé, là, comment l'asphalte est fait, là, puis c'est quoi la réaction qu'elle avait sur les pneus avant, mais en passant, ça a été resurfacé, donc vous n'avez plus rien de bon dans vos ordinateurs que vous pouvez vous servir. Donc on part à zéro pour tout le monde, une séance de célib, trouvez vos bons réglages, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez changer. Donc les écuries, ce qu'ils ont dit eux autres, c'est qu'on va aborder surtout les séances de qualification et même la sprint comme une façon d'aller chercher encore plus de données, puis de vraiment capable de se préparer pour la qualification qui va compter. Là, vous vous doutez aussi là, que normalement, quand on arrive dans un week-end sprint, on se dit « Ah, on n'apporte pas d'amélioration aux voitures parce que c'est risqué un peu. » Il y a des écuries qui l'ont fait pareil, des écuries qui ont un peu rien à perdre. Alpine, ça presse, ça prend quelque chose. Bien, Alpine, on a apporté quelque chose qui est assez gros là, pour le week-end. Donc, on a changé la géométrie, on a un nouveau plancher. On a changé ça, donc un nouveau plancher qui vient s'intégrer avec les côtés. On a des nouvelles entrées d'air aussi qu'on a changé, qui vient mieux s'associer à l'aileron sur le, à les petits ailerons qui sont sur les bords des planchers. On a aussi redessiné les parois latérales des diffuseurs. Donc, il y a plusieurs choses de modifiées. Est-ce que ça va avoir un impact? On peut vous dire là, que dans le fond, il y a à peu près rien de bon qui était sur cette voiture-là, mais la mission, c'est d'avoir plus d'appui. C'est ce qu'on a voulu faire. On peut pas toucher au moteur. On veut, c'est sûr qu'on est peut-être encore une voiture trop lourde, mais on a essayé d'aller chercher un peu d'appui aérodynamique. Est-ce que c'était quelque chose qu'on avait prévu depuis longtemps de faire? Ça se peut, si tôt dans la saison, une amélioration aussi imposante. C'est sûr que c'est des choses qui avaient été déjà élaborées dans le début de saison. Donc, je pense pas que ça va venir tout corriger. Ça va peut-être venir un... C'est ça. Mais des fois, c'est pas évident. Comme je dis, on n'a pas de données pour le circuit. On apporte des nouveaux éléments encore. Gasly mentionnait après les séances de Célib, Pierre Gasly, comme quoi qu'il n'a rien appris de cette séance-là parce qu'ils sont encore dans l'inconnu, tout est nouveau. On a essayé de trouver. C'est pour ça, normalement, que les écuries sont un peu plus timides à l'idée d'amener des améliorations sur un week-end sprint. As aussi, ont rien à perdre, ils ont du rattrapage à faire, ben Haas a amené aussi un nouveau plancher, donc une grande amélioration pour eux, là, un grand package qu'on appelle, là, donc c'est ça, nouveau plancher avec un nouveau capot moteur, tout ça c'est supposé, on change un peu la géométrie, on veut améliorer l'écoulement d'air, envoyer mieux notre air vers l'arrière de la voiture, donc aussi la même chose, avoir une meilleure maniabilité, avoir une meilleure compréhension de l'auto, que ce soit plus facile à conduire pour les pilotes, une voiture qui est moins instable, peut-être plus prévisible à la conduite. C'est tout ça qu'on a essayé de modifier. On a aussi un peu changé la disposition des canaux pour le système de refroidissement. Tout ça, là, ça... c'est gros comme amélioration, mais je pense que ça vient un peu remplir ce qu'on nous avait dit du côté de Haas en début de saison. On avait dit que la voiture avec laquelle on allait débuter n'était pas prête. C'était pas vraiment notre voiture. Notre voiture 2024, là, en tant que telle, là, on a dit, on l'a pas vraiment encore parce que il y a plein d'éléments qui sont en retard, qu'on n'a pas réussi à terminer. C'est peut-être pour ça, justement, que Gunther Steiner s'est fait renvoyer avant le début de la saison. On s'est dit, écoute, là, depuis 2021, tu prépares une voiture pour la saison prochaine. 2022, tu prépares une saison pour la 2023. 2023, en tant que parler, vous préparez une voiture pour 2024. Là, on arrive en 2024, la saison va commencer, puis t'en as pas de voiture de prêt, ben toi, prends la porte, là, retourne chez vous, puis on va mettre un autre gars à ta place. C'est peut-être ça, là, je spécule, mais je me mets dans les souliers de la personne en charge, même si on donne pas nécessairement tous les budgets, mais je me dis, c'est juste ça que vous faites, préparer le futur. On arrive au moment où ce que la saison va commencer, puis on n'a pas notre voiture de prêt. Là. Ça demande un peu ce que vous avez fait pendant tout ce temps-là, que vous avez dit, on met pas d'amélioration sur notre voiture, parce que nous, on mise pour l'année prochaine. On arrive à l'année prochaine, puis vous n'êtes pas là non plus. Ensuite, fait que c'est ça, c'est pour Haas. Quand on arrive du côté de Mercedes, ben c'est pas une grosse amélioration. On l'avait dit, là, Toto Wolff avait mentionné qu'on veut attendre. On comprend pas notre auto depuis le début de la saison. On n'a pas trouvé notre fenêtre de performance. Donc, apporter des nouvelles choses, venir ajouter des nouvelles composantes, ça va juste mélanger ce qu'on est en train de faire. On veut pas ça. On veut vraiment comprendre ce qu'on a sous la main avant de venir ajouter des éléments qui pourraient venir un peu troubler là, ce qu'on a déjà de la misère à analyser. Du côté, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé les deux côtés du halo. Le halo venait perturber là un peu l'aérodynamisme. On dit que ça affectait l'écoulement d'air vers l'aileron arrière. Donc on a remodifié ça là, sur les deux côtés. Là. C'est quelque chose de très discret. Chapeau si vous êtes capable de vraiment le voir à l'œil sans voir une photo de l'ancien à côté du nouveau. Mais c'est ce qu'on a changé du côté des flèches d'argent. Les flèches maintenant argent et noir. Ce sont pas vraiment juste argent. Pour ce qui est de Williams, on avait la même chose. On a modifié notre halo, mais on a modifié l'avant du halo. Pour les mêmes propriétés, là, ce qu'on veut, c'est améliorer l'écoulement d'air vers l'arrière, essayer d'aller envoyer ça de façon plus synchronisée vers l'aileron arrière. Et puis du côté de Racing Bulls, où eux autres aussi ont apporté des améliorations, mais c'est ce qui le dossier du pilote. Donc il y a des côtés là qui sont à air ouverte, mais on trouvait que ça aussi il y avait quelque chose qu'on n'aimait pas, sûrement pour de la traînée là, que la voiture provoquait un drag en anglais là, mais c'est en français on utilise le mot traînée. Ben sûrement que ça là, cette restriction là, on a jugé qu'il y avait un problème avec ça, fait qu'on a un peu modifié ça. Je pense pas que c'est pour le confort des pilotes là, c'est vraiment c'est dans le dossier, c'est vraiment ce qui était à la qui dépasse un peu de la voiture. Donc ça venait faire une obstruction avec notre formule qu'on a établie pour avoir un bon écoulement d'air. Donc à ce moment-là, on a modifié ça. Mais encore là, c'est des choses qui sont mineures. Là. Ça serait surprenant de voir Racing Bulls là, tout d'un coup gagner un temps significatif sur un tour à cause de ces petites modifications-là. Pour ce qui est des séances de célib, bien, vous savez, je vous dis souvent, la première séance, ça veut pas dire grand-chose, ça veut pas dire grand-chose, mais là, elle était importante, mais elle voulait dire rien dire, parce que tout le monde fait des programmes différents, tout le monde essaie essayer de mettre trois séances de célib sur un week-end normal, mais tout mettre ça en une, donc tout le monde roule des programmes un peu différents. Il y en a qui se concentrent sur la course, il y en a qui se concentrent sur la sprint, il y en a qui se concentrent sur la qualification. Et tout le monde se concentre sur de quoi de différent. En plus, la piste, ben, elle est flambant neuve parce que il y a pas de voitures qui ont roulé là. Fait que là, c'est le temps qu'on mette la gomme, le temps qu'on enlève cette saleté-là. Donc, plus que la séance avançait, ben, plus que la piste devenait meilleure. Et c'est notre ami, le Canadien, Lance Stroll, qui a réussi à signer le meilleur temps de la séance de célèbre, mais je veux pas monter vos espoirs trop vite, là. C'est revenu quand même assez vite à la réalité pendant les qualifications. Mais du moins, il a signé le meilleur temps. C'est une séance aussi qui a eu un drapeau rouge. Drapeau rouge, pourquoi? Pour un feu dans le gazon. Oui, le gazon a pris en feu à cause des étincelles. Vous savez, là, les patins, je vous ai déjà parlé de ça. C'est les fameuses barres en titanium, là. Il y en a deux sous la voiture qui servent à protéger non seulement le pilote pour pas que ça soit la voiture qui encaisse les coups directement, que ça vient cogner en dessous. C'est la planche, là. Dans le fond, on a une planche en dessous. Ça, c'est le pilote est pratiquement assis dessus. Donc, pour le protéger, ce qu'on fait, c'est qu'on met deux barres en titanium qui viennent servir de patin. Donc, quand la voiture descend trop basse, avec l'appui aérodynamique, ce que ça fait, c'est que la suspension descend. On a l'air qui vient mettre une pression sur la voiture. C'est ce qu'on appelle l'appui. Mais à ce moment-là, bien, la voiture descend à certains endroits. Puis, vous pouvez apercevoir des flamèches en dessous de la voiture. Bien, ces flamèches-là, là, c'est qui sont assez spectaculaires. Ça, on les voit toujours encore mieux là, sur les circuits de soir. Là, on est dans ça se déroule dans le jour. Donc, on peut les apercevoir quand même, mais c'est toujours moins spectaculaire. Mais ces flamèches là sont allés dans le gazon puis ils ont mis le feu. Fait qu'il a fallu en plein milieu de l'épreuve là, dire oh, faut envoyer quelqu'un, dépêcher quelqu'un avec un extincteur puis éteindre l'incendie qui avait été débuté par ces fameuses étincelles là. Donc ça l'a un peu bouleversé la séance, mais pas tant que ça parce que ça a été quand même assez vite là. C'est pas comme une voiture puis faut reconstruire un accident, faut reconstruire une barrière tout ça. Ça prenait juste un bon commissaire de piste ou comment qu'on appelle ça déjà en anglais, j'ai le mot marshal, ben, je vais dire, vous allez comprendre ce que je veux dire, marshal qui arrive avec son instincteur puis vient éteindre ça. Ensuite, je pense que c'est signaleur le beau mot, signaleur, ouais, c'est peut-être un signaleur en tout cas. Vous avez compris ce que je veux dire. Quelqu'un avec un beau suit, là, One Piece, là, en un morceau de couleur assez visible, avec un dossard qui est venu éteindre l'incendie. Ensuite, un pompier de service, hein, on va appeler ça de même. Fait qu'après ça, c'est ça. Pour le drapeau rouge, ben c'est ça, il a été causé par ça. Puis c'est ça, la piste a continué d'évoluer après. Puis c'est Lance Stroll qui a réussi à soutirer le meilleur temps. Quelque chose aussi à noter du côté, une différence, là. Vous savez, McLaren, Ferrari, Red Bull, c'est les trois écuries qu'on peut dire qui sont peut-être en compétition, même si Red Bull a l'avance. Je pense que Ferrari est clairement la deuxième écurie. Mais McLaren, on travaille un peu là-dessus. Ils nous ont habitués la saison dernière, ils sont capables de progresser au travers d'une saison, donc ils sont à surveiller, mais c'est quand même la troisième écurie pour le temps. Mais quand on regarde les vitesses en ligne droite par rapport aux trois équipes, eh bien, du côté de McLaren, on atteignait 312 km à l'heure. 312 km à l'heure, pour des gens comme vous et moi, on dit « Ah, ça c'est rapide ». Mais quand on compare à une Ferrari, la Ferrari, elle est à 318 km/h. Donc, c'est une bonne différence entre 312 et 318. Puis quand on compare avec la Red Bull, mais la Red Bull a atteint des vitesses, oh, excusez-moi, 317 pour la Ferrari, mais 318 pour la Red Bull. Donc, 1 km/h de différence entre la Scuderia puis les Toro Rouge, mais du côté de McLaren, seulement 312. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ben, ça nous dit que McLaren a sûrement favorisé plus d'appui. Pourquoi qu'on a fait ça? Ben, peut-être que on a vu juste parce que dans la séance de qualification qui suivait les essais libres, eh bien, on a eu de la pluie. Quand on a de la pluie, puis on est capable d'avoir un peu plus d'appui aérodynamique, pluie, appui, quand on est capable d'avoir ça, ben des fois ça va venir jouer de notre côté. Puis je pense que c'est ça que ça a peut-être fait. Si c'est juste un hasard, ou c'est peut-être juste la voiture qu'on n'a pas une bonne vitesse de pointe. Si on a quand même vu ça sur d'autres grands prix, mais je pense que peut-être qu'on a joué un petit jeu chez McLaren, joué de prudence, de dire on est mieux favoriser un peu plus d'appui, moins de vitesse en ligne droite, puis ça va venir peut-être jouer dans nos mains pour le reste du week-end. Peut-être que non, ça va peut-être être un ennemi, mais là du moins on va passer, là, on s'en va là. La séance de qualification, eh bien vous allez voir que ça l'a sûrement aider McLaren. Sprint Shootout. On pouvait s'attendre à un bon spectacle parce que, comme on l'a dit depuis le début de l'épisode, c'était de l'inconnu pour les pilotes, de l'inconnu pour les écuries et même de l'inconnu pour nous qui regardons à la télévision parce qu'on pouvait faire le pari facile de dire les forces en présence sont sûrement Red Bull, Ferrari, McLaren, mais on sait jamais. Puis c'est ça qu'on a eu. On a eu du « on sait jamais » parce que même s'ils n'en annonçaient pas pour le week-end, même si la pluie n'était pas supposée d'être de la partie, bien en Chine, ça peut toujours arriver très, très rapidement. Puis c'est ce qui s'est produit. Quand les voitures ont pris la piste pour débuter les séances de qualification, bien les radars montraient que normalement, la pluie pourrait se mettre de la partie, mais plus vers la fin des qualifications. Finalement, ce qui est arrivé, bien, c'est qu'il est arrivé plus tôt. Puis il y a aussi eu un autre drapeau rouge. Un drapeau rouge pour quoi? Bien, un drapeau rouge pour un incendie dans le gazon. Mais oui, c'est encore une fois, on a eu les étincelles ont allumé un autre incendie. Il y a encore quelqu'un là qui est venu là éteindre ça. Un pompier de service que j'ai décidé de l'appeler tantôt. Bien, un pompier de service, commissaire, marshal, signaleur. Comme je vous dis, le nom que vous voulez, ben lui est venu éteindre l'incendie. Fait que c'est ça. Fait que là, après ça, on a pu relancer ça. Mais ce petit temps-là qu'on a perdu, ben ça a peut-être fait que la pluie est arrivée exactement dans la Q3. C'est là que c'est vraiment devenu plus intense, tellement que là, on est obligé de passer aux gommes intermédiaires, mais ça tenait pas. C'était vraiment comme faire du rallye. Les voitures glissaient. Là, on a tombé à faire des temps. Là, pour vous donner une idée, là, vous allez comprendre. On tournait en 1.36 en Q1, le tour le plus rapide. Là. Ben, aux alentours de 1.36, on va prendre celui de Verstappen, 1.36-456 pour être plus précis, qu'on roulait. En Q2, on avait réussi à descendre à 1.35-606. Là, on se dit, ah, c'est pas assez rapide, ça. Puis là, après ça, avec la pluie, 2 minutes. On a commencé à tourner dans les 2 minutes. On a perdu tout près de 30 secondes juste avec les températures. Fait que là, c'était vraiment rendu qui est capable de se rendre sur la pointe des pieds pour ramener la voiture à la ligne d'arrivée et être capable d'enregistrer un temps compétitif. Max Verstappen, vous connaissez son talent sous la pluie. Normalement, il est très, très bon. Mais il est allé trop loin. Il a poussé sa voiture au maximum. Il est en train de faire un temps. Il était 1 seconde plus rapide que tout le monde. Mais il a échappé la voiture. Il a glissé la voiture dans le dernier virage. Il n'y a pas eu de dommage, mais il est obligé de recommencer, de se repositionner pour faire un autre tour. Il a perdu énormément de temps. Même que la relance, là, pour débuter son tour, c'est dans le dernier virage qu'il a perdu le contrôle. Donc, à ce moment-là, sur cette relance-là, il n'a pas pu maximiser la grande ligne droite. Donc, c'était un peu, les carottes étaient un peu cuites pour lui, là. Ça aurait été très compliqué de signer une pole position avec comment il a débuté, même si Lando Norris s'est mis un peu dans la même position, et c'est lui qui a signé la pole. C'est la McLaren de Lando Norris. On vous le mentionnait, là, je parlais de ça il y a à peine 3 minutes, 4 minutes, qu'on avait décidé de mettre plus d'appui. Est-ce qu'on avait anticipé l'appui? Ça, c'est la bonne question. J'aimerais ça demander à Zach Brown. On aura la chance d'y parler. Là. Si vous pouvez répondre au téléphone quand je l'appelle, Zach Brown, ben, j'aimerais ça savoir, avez-vous pensé que l'appui serait là? L'avez-vous vu sur vos radars? Parce que vous avez l'air d'avoir sélectionné des réglages pour ça. Mais en tout cas, si c'était pas le cas, à sa place, je dirais oui, oui, on l'a vu. Mais parce que le mérite leur reviendrait parce que c'est la seule écurie vraiment qui a l'air d'avoir pensé à ça. Puis Lando Norris se ramasse en pole position. Puis ça a été un spectacle parce que pour les partisans de Lewis Hamilton, ben ça a été un peu briser le cœur parce que on pensait bien que c'était Lewis Hamilton qui avait la pole parce que Lando Norris s'était fait effacer un temps lors de la séance. La raison pourquoi ça, c'est qu'il a mis sa voiture hors limite, puis on avait même effacé son autre temps après parce qu'on se disait, si tu gagnes un avantage en débutant un temps, donc à ce moment-là, ben, on te le retire aussi. Sauf qu'on a jugé qu'il a passé par de la garnotte, pour le bon terme, là. Il a passé dans le gravier. McLaren a plaidé la cause. Écoutez, là, si vous êtes capable de prouver qu'il a gagné du temps en passant ses 4 roues dans le gravier, sans court-circuiter un virage, en affectant sa relance, que c'est ça qui... Tout le contraire, ça a donné 0 avantage, même son temps aurait dû être beaucoup plus compétitif. Donc, on a été capable un peu de plaider notre cause. Ça reste à voir là, dans les prochaines heures s'il y a quelqu'un qui va contester ça ou si vraiment on a cette latitude-là dans le règlement pour dire oui, c'est du gros bon sens, la température permettait pas, puis il a pas gagné, on n'est pas capable de prouver qu'il a gagné un avantage, donc on lui garde son temps, en tout cas. Ça reste à voir, mais c'est pour ça que Lewis Hamilton n'a pas eu la pole position parce que c'est lui qui l'avait, c'est lui qui avait passé la ligne d'arrivée en dernier. On avait bien jugé ça, autant de son côté que du côté de Mercedes. en se disant, on va essayer de préparer les pneus, monter les pneus en température, parce que normalement, les gommes viennent excessivement froides quand on est dans la pluie comme ça. Mais ça aurait pu être un couteau à double tranchant, parce que plus que la pluie monte, plus que la piste devient plus difficile à conduire. Mais on a quand même réussi à maximiser ça, puis à rentrer deuxième du côté d'Hamilton. Donc, c'est un très bon résultat, meilleur résultat de la saison, autant pour lui que pour Mercedes, d'être juste en arrière de Norris. Ça va nous donner toute une sprint. Je peux vous dire, là, si vous avez la chance, là, faire une sieste en après-midi, si vous êtes fatigué, vous êtes levé tôt, ça va commencer à 23h, heure du Québec, vendredi soir. On s'installe, on regarde ça. Ça va être tout un spectacle. Lando Norris qui part en premier. Lewis Hamilton qui part derrière lui. Fernando Alonso, vous savez, là, vous êtes nombreux à l'aimer. Pas juste au Québec, partout dans le monde, mais j'ai la chance de vous parler beaucoup, là, autant les auditeurs du F1 Podcast qui nous suivent en France, un peu partout. Fernando Alonso est excessivement populaire ces années ici, puis au Québec aussi, on l'aime beaucoup. Si on se fie au nombre de chandails verts qu'il y avait au Grand Prix de Montréal la saison dernière, là, oui, il y a Lance Stroll, bien entendu, là-dedans, mais Fernando Alonso a une grande partie de ça aussi. Ben lui, il va être troisième. Encore là, Hamilton, Alonso, sur la grille de départ, très près un de l'autre. C'est toujours un bon mix pour une bonne recette pour avoir un bon spectacle. Puis quand on parle d'Hamilton Alonso, c'est une bonne recette pour avoir un spectacle. Mais pourquoi pas ajouter un peu, saupoudrer ça de Max Verstappen? Parce que Max Verstappen, il va être là aussi. Il va être juste derrière Alonso puis Hamilton. Puis on peut facilement faire un bon pari là qu'il risque d'être là, là, de se présenter dans le premier virage. À moins qu'il ne veut pas prendre de risque, mais il risque d'être assez vite d'aller soit Hamilton ou Alonso risque de le voir dans leur miroir. Donc ça va être à surveiller. Donc on va avoir ce petit spectacle là. Au départ, pendant les premiers tours, de voir comment Max va réussir à trouver le moyen de passer ces deux légendes-là. En gros, on peut le résumer d'une autre façon. On a les trois seuls champions du monde sur la grille qui vont être alignés un en arrière de l'autre. Encore là, je sais pas comment vous le dire, vous leur changez de côté pour vous montrer à quel point ça va être intéressant, mais c'est pas mal tout ça que je peux vous donner. Là. La recette est là, la recette est complète. On va avoir un spectacle, c'est pratiquement certain. Après ça, on a Carlos Sainz. Carlos Sainz qui a une très bonne saison. Juste derrière Verstappen, pourrait peut-être devenir le nouveau coéquipier si on s'en fie et si on se fie qu'à Helmut Marko. On a jasé avec Carlos Sainz. Carlos Sainz a un offre plus grande chez Audi. On essaie de le convaincre peut-être de regarder, de prendre un peu moins d'argent puis de venir dans une voiture compétitive. Du moins, c'est ce que Helmut Marko laissait sous-entendre. Donc là, on va les voir aussi un à côté. Ils ont déjà été coéquipiers par le passé, là, Sainz et Verstappen. Ensuite, parlant de coéquipiers, bien, on a Perez. Perez qui est en compétition pour garder son poste puis son plus proche compétiteur qui pourrait venir lui voler son emploi chez Red Bull, eh bien, c'est Sainz. Eh bien, lui, il est juste derrière, là. Perez est juste derrière Sainz. Encore là, ce que je peux vous en dire plus pour vous dire, c'est à ne pas manquer ce qu'il va avoir à 23h ce soir. Je pense que ça, c'est pas mal tout, là. Je vous en donne des bons arguments. Ensuite, on a Leclerc en arrière, compétition pour le championnat des constructeurs, Red Bull, Ferrari, un autre Red Bull, puis un autre Ferrari. Ça, c'est septième pour Leclerc. Piastri, huitième. Bottas, neuvième. Les stacks F1. Puis en plus, la bonne nouvelle là, pour Sauber, savez-vous c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas d'aéropluie pendant une sprint. Donc on a des chances. Parce que s'il y avait un aéropluie, ben on serait cuit. Parce que là, c'est 30 secondes d'arrêt. On oublie ça. Ils finissent dernier. Mais là, on peut faire, si tout va bien, puis on fait pas de niaiserie, pas d'erreur au départ, mais normalement, on peut faire une course au complet sans s'arrêter. Ça, c'est la meilleure nouvelle. Sauber, il pourrait vouloir, là, il pourrait faire des pressions à la Formule 1 pour changer le règlement, puis qu'on termine la saison seulement en faisant des courses sprint. 100 km, pas plus, pas d'aéropluie, on a des chances d'avoir des points. Ça, ce serait le concept qu'eux autres, ils voteraient tout de suite. S'il y a un vote d'un paddock, là, c'est sûr que Sauber, ils disent, nous autres, on vote pour ça. C'est inutile, les aéropuis. On n'aime pas bien ça, nous autres. Après ça, Joe, dixième, il est chez eux. La première fois depuis qu'il est en Formule 1 qu'il a la chance de piloter devant ses proches. Il est né tout près de là, tout près du circuit de Shanghai. Eh bien, dixième, il fait un top 10. Meilleur résultat de la saison aussi. Les deux Sauber qui sont là. Donc ça aussi, demain, ça va être intéressant. La foule était très, très contente. Heureuse de voir leur gars de la place, leur enfant chéri se retrouver dans le top 10. Derrière, ben c'est 11e, Russell. Pas une belle journée, pas une belle qualification. Ça semblait difficile parce que aller jusqu'à la fin, là, aller jusqu'à la pluie commence à tomber, c'est venu niveler un peu le jeu pour tout le monde. Les Mercedes étaient vraiment pas dans le coup. Donc ça va être intéressant de voir demain s'ils sont capables de sécuriser des points pareils dans la sprint. Du côté de Magnussen, dans sa Haas, eh bien lui, il est 12e. Après ça, Hülkenberg, 13e. Ricardo, 14e. Le Russet a devancé son coéquipier Tsunoda. On a changé le châssis à Ricardo. Hein. C'est un peu sa dernière carte qu'il joue au cours du week-end. Là. Il disait que c'était peut-être le châssis qui était le problème, pourquoi il n'est pas très compétitif depuis le début de la saison. Donc, avec un nouveau châssis, il réussit à être 14e. Stroll, 15e. C'est quand je vous dis qu'il fallait pas bâtir trop les attentes trop hautes avec ce qui s'était produit, eh bien, c'est ça. 15e pour Stroll. C'est un peu décevant. Surtout que sous la pluie, des fois, il a tendance à s'animer un peu. Il nous a habitués par le passé à être un bon pilote sur la pluie. Puis je m'attendais que. Mais il s'est pas vraiment rendu à là, mais il y avait la pluie un peu. Il y avait un petit peu de la piste un peu trempée lors de la Q2. J'aurais pensé que peut-être que ça aurait pu lui donner une opportunité. Mais si au moins il avait pu se rendre en Q3 puis prendre la vraie pluie, là, quand ça s'est mis à tomber plus fort, mais il aurait sûrement pu se faire justice puis peut-être trouver un bon résultat. Mais il n'a même pas réussi à se rendre là. Après ça, 16e pour Gasly, 17e pour Ocon. Ça va pas bien, ça va pas mieux pour Alpine. Ensuite, Albon, 18e. Ça, c'est pas des bonnes nouvelles. Quand on dit qu'on n'a pas peur de prendre des risques, peut-être que ça joue dans la tête plus qu'on le pense finalement. Ou là, on s'est vraiment trompé. Mais en tout cas, c'est pas les modifications du halo qui nous a donné jusqu'à maintenant des bons résultats. Mais encore là, faut pas être trop sévère. On a eu une séance d'essai libre pour des écuries qui ont apporté des changements, même s'ils sont mineurs. C'est pas évident. Déjà, quand on parle de Mercedes, des équipes qui ont de la misère déjà dans un week-end avec trois séances d'essai libre à mettre le doigt sur les bons réglages pour être compétitifs, ben, vous savez que quand on leur en donne juste une, vous êtes capable de faire le calcul que ça devient excessivement compliqué pour eux d'être capable de monter leur voiture pour être compétitif. Ensuite, Tsunoda, 19e, ça c'est décevant, il n'était pas content. Lui aussi, il semble s'avoir trompé dans ce qu'il a, ce qu'il pensait peut-être être les bons réglages pour le week-end. Et puis, dernier, 20e, eh bien, c'est Logan Sargeant. Eh bien, c'est ce qui complète les séances de qualification. En terminant, je sais, je vous l'ai dit à peu près de toutes les manières, qu'on va avoir un super bon spectacle, non seulement pour la sprint, mais je suis sûr que le Grand Prix, ça va être tout à recommencer. La séance de qualification qui va être pour le Grand Prix, qui va se passer après qu'on ait eu une course, tout ça, là, ça vient mettre énormément d'action. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le Grand Prix de Chine. C'est un circuit intéressant où c'est possible de faire des dépassements. Moi, c'est un de mes virages favoris, là. L'enchaînement, quand on retourne vers la ligne d'arrivée, c'est un de mes enchaînements favoris dans tout le calendrier. Je pense que c'est une place qui devrait avoir plus. Il devrait en avoir plus des endroits comme ça où on peut vraiment compléter un dépassement. On peut jouer en allant freiner plus loin ou en concédant un peu au freinage pour être capable de réaccélérer plus vite, avoir une bonne sortie, puis être capable d'enchaîner le virage avant la grande ligne d'arrivée. Donc tout ça, là, ça vient donner un bon spectacle. Dans la sprint, on risque déjà de voir des dépassements. Là, autre chose qu'on surveille pour le week-end. Du côté de Red Bull Racing, on a 116 victoires dans notre histoire. Du côté de Mercedes, on en a plus. On en a 125 au total. Sauf que si on se fie, on enlève les victoires. Là, pas parce qu'on veut pas leur enlever, ils leur méritent. Mais si on se fie juste à l'ère moderne, parce que Mercedes a gagné dans les années 50. Là. Ils ont été là, ils ont eu 9 victoires dans les années 50. Mais si on se fie à ce depuis leur retour, donc ils sont revenus en 2010. Donc depuis 2010, Mercedes a gagné 116 Grands Prix. Mais du côté de Red Bull qui est arrivé en 2005, on a aussi gagné 116 Grands Prix. Donc on pourrait, lors du week-end, si Red Bull advenait à gagner une course, on pourrait dépasser Mercedes dans l'ère moderne. Mais quand on parle de domination, là, des fois il faut rafraîchir la mémoire parce qu'on oublie, hein, on oublie des choses. Mais quand on parle de domination, là, on remet ça en perspective. De 2005 à 2024, Red Bull a gagné 116 Grands Prix. Mercedes a gagné le même nombre de Grands Prix, mais de 2010 à 2024. Puis même là, je vais être honnête, c'est même plus rapproché que ça parce qu'on n'a pas gagné en 2010. Même chose pour Red Bull, on n'a pas gagné en 2005. Mais tout ça là, pour dire, dans un air très concentré de Mercedes, on a gagné excessivement de victoires là, quand même d'avoir été d'en chercher 116 depuis 2010. Ça montre qu'on a été très dominant. On a fait des bonnes choses pendant plusieurs saisons. Donc, ça serait intéressant de les voir retrouver cette fameuse petite touche-là là, qui les fait avoir du succès. Et ça va être à surveiller. Bagarre pour savoir qui va passer à 117 dans l'ère moderne, mais ça va falloir attendre un peu plus tard là, pour que Red Bull prenne leur rang, parce que c'est quand même 125 le nombre total. C'est ce qui conclut notre épisode du vendredi 19 avril. Notre prochain rendez-vous sera lundi. D'ici là, je vous invite à entretenir la conversation avec nous en nous suivant sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, où nous y serons présents tout au long du week-end à travers diverses publications pour recueillir vos commentaires autant sur la course sprint, les séances de qualification ou même vos prédictions pour le Grand Prix de dimanche. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Merci de faire confiance à F1 Podcast et je vous souhaite un excellent week-end de course.